Bonsoir, merci d'être venu. Je me présente, je suis Eric Vigne, je suis l'éditeur de ces deux ouvrages, de cet ouvrage en deux volumes plus exactement. Et pour vous présenter un peu de la soirée, à ma droite il y a Alia Glan, à ma gauche Robert Franck, qui se présenteront mieux et plus longuement tout à l'heure, tous les deux historiens, et qui sont à l'origine de ce projet. Ce projet nous a intéressés, nous avons voulu le faire éditorialement, pourquoi ? Alors d'abord, je lève tout de suite un doute ou une illusion, ça n'a rien à voir avec un anniversaire, puisque si nous avions tenu le calendrier, puisque c'est un ouvrage collectif, ça prend toujours du retard, nous aurions dû être ici il y a 18 mois ou 2 ans. Donc ce n'est pas un anniversaire que nous célébrons parce que les anniversaires ne sont pas, ce sont des dates civiles, ce sont des dates mémorielles, mais ça ne correspond pas avec le temps de maturation de la recherche. La recherche est indépendante des anniversaires, elle progresse de son propre tempo, de son propre rythme. Et lorsqu'il y a maintenant plus de 5 ans, nous avons eu l'idée d'accepter, nous avons accepté la proposition qui était faite par mes deux comparses d'aujourd'hui, il nous a semblé important de nous donner la possibilité de faire un ouvrage ample, parce que éditorialement, il y avait beaucoup de synthèses sur la Deuxième Guerre mondiale, que la plupart de ces synthèses portaient sur la partie européenne, voire strictement française, alors que tout dans l'actualité montrait que ce qui se jouait en Asie, ce qui s'était joué en Asie, jouait encore très fortement dans les relations entre la Chine, le Japon, ou le Japon et d'autres pays, tels que la Corée, etc., etc. Donc tous les jours, nous avions ce rappel à l'ordre, comme quoi il y avait la guerre dans le Pacifique avait été fondamentale. Que d'autre part, quand nous étions, si nous avions eu la malchance d'être des peuples à l'est de l'Europe en 1945, la guerre ne se terminait pas par la signature de l'armistice. Elle embrayait sur des sociétés froides, des sociétés dominées par le glacis soviétique. Que d'autre part, il n'était de jour où, avec la centralité qui est désormais accordée au génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, le problème du tribunal de Nuremberg n'était posé, ce qui faisait que la Deuxième Guerre mondiale nous apparaissait désormais sous l'aspect d'un héritage juridique. Que d'autre part, tous les jours, il y a des violences faites aux populations civiles dans les guerres, qui donnent lieu à des tribunaux internationaux, c'est un autre héritage de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, nous avons eu l'ambition de rassembler toutes les pièces de ce puzzle, des pièces qui sont travaillées par des historiens isolément, spécialisés dans leur domaine, et qui ne songent pas nécessairement à proposer une synthèse de leur recherche. Et c'est ce que nous avons voulu faire avec cet ouvrage, qui commence en 37, se termine en 47. En 37, parce que c'est l'Asie, et que la guerre commence en Asie, puis ensuite elle commence en Afrique, avec les invasions coloniales menées par le régime mussolinien. Elle se termine en 1947, parce que 1947, c'est les fondements de la reconstruction de l'Europe, c'est les fondements de quelque chose qui est maintenant très largement attaqué partout, qui sont les fondements d'une économie de l'État-providence. C'est Nuremberg et la définition d'un nouvel arbitrage pour les crimes de guerre, la notion de crime de guerre qui devient centrale. Et c'est aussi le rideau de fer qui tombe sur une partie de l'Europe ou sur une partie de l'Asie, et donc le début de la guerre froide. Donc on a voulu prendre la décennie pour montrer ces phénomènes nouveaux de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il faut savoir aussi que quand vous n'êtes pas spécialisé dans les milieux historiens, vous n'êtes pas censé savoir que la centralité de la Deuxième Guerre mondiale a été elle aussi remise en cause par nombre d'historiens qui ont considéré qu'elle était la suite malencontreuse de la Première Guerre mondiale, et que l'invention des violences de guerre faites aux civils, l'invention des violences de guerre faites, de la violence faite aux sociétés dans leur mobilisation, dans leur domination, dans leur conquête, dans l'occupation des territoires, c'était la Première Guerre mondiale qui était le laboratoire, et que par les échecs et les conditions drastiques des traités de paix, la Deuxième Guerre mondiale venait en quelque sorte en dérivation de la Première. Alors il nous a semblé très important de tout remettre à plat à travers cet ouvrage, de le faire avec la collaboration d'une cinquantaine d'auteurs, dont beaucoup sont des étrangers, qui apportent un point de vue différent, et de le faire de la manière la plus globale qui soit, c'est-à-dire de le faire à partir d'un jeu de deux échelles, sur lesquelles les comparses vous reviendront tout à l'heure, c'est-à-dire une échelle internationale puis mondiale, c'est-à-dire qu'il faut savoir et se mettre dans la tête des stratèges américains ou anglais, lorsque face au bas-monde, ils décident que le débarquement aura lieu d'abord en Europe plutôt que dans le Pacifique, par exemple, et dans le même temps, se mettre au niveau du soldat qui débarque, par exemple, le soldat américain qui débarque le 6 juin 1944, et qui ne sait pas très bien, comme Fabrice Del Dongo dans la bataille de Waterloo chez Stendhal, ça pète de partout autour de lui, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas s'il progresse, il ne sait pas si ça relève des plans de l'état-major, s'il est en adéquation avec ce qui est prévu par l'état-major. Et par exemple, il y a une contribution très intéressante qui a été faite par des historiens allemands sur la bataille dans le bocage normand où les troupes américaines découvrent l'ampleur de la position et de la présence allemande, largement sous-estimée. Ils découvrent que la géographie du bocage ne permet pas des progressions très rapides. Et donc, dans la guerre du bocage, ce sont des guerres où chacun se cache plus ou moins pour tirer sur l'autre. Et à partir d'une petite statistique faite par des historiens allemands, si je ne m'abuse, à savoir que grosso modo, les soldats allemands ont tiré 10 fois plus de balles que les soldats américains, on arrive à une analyse, on peut embrayer sur une analyse sur la place de l'individu et de la vie du soldat comparé dans deux régimes, l'un totalitaire, l'autre qui est encore une démocratie, même si elle a fortement mobilisé les esprits, un chapitre le montre, par des films de propagande pour justifier le fait de traverser l'Atlantique pour venir mourir dans les bocages normands ou sur le continent européen. Et tout ça, on a voulu le lier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Seconde Guerre mondiale, et on ne sait plus si c'est vraiment la matrice telle qu'on l'a posée pendant des années ou si sa position de matrice est tempérée par ce qui a été inventé par la Première Guerre mondiale. C'est un héritage qui est aujourd'hui très largement philosophique, c'est un héritage du droit international, c'est un héritage de pratiques qui ont été très largement inventées par la Deuxième Guerre mondiale, c'est les violences faites aux civils. Il y a plusieurs chapitres qui sont spécifiquement consacrés à cela, notamment sur le front de l'Est, et qui aujourd'hui montrent que ces pratiques se retrouvent d'une certaine manière en Centrafrique, en Afrique ou dans d'autres conflits, en Syrie ou ailleurs. Et c'est tout cela qu'on a voulu mettre à plat pour montrer que la Deuxième Guerre mondiale, étant mondiale, n'est pas strictement européenne, n'est pas strictement hexagonale, et a une ampleur qui mobilise aujourd'hui différentes entreprises de connaissances, différentes disciplines, qui peuvent être l'anthropologie. Il y a une anthropologie de la guerre qui s'intéresse aux violences de la guerre, la sociologie, l'histoire économique aussi, parce que les formes de mobilisation des sociétés industrielles n'ont pas disparu en 1944-1945. Elle s'est souvent traduite dans les décennies qui ont suivi par des pratiques civiles de planification des entreprises et des planifications de l'industrie. Ça mobilise bien évidemment la littérature, ça mobilise des historiens de la musique, des historiens du cinéma, des historiens, des philosophes aussi. Et c'est tout ça qu'on a voulu, c'est tous ces gens-là qu'on a voulu rassembler dans cette entreprise avec une seule idée qui est de décentrer par rapport à l'Europe, montrer que l'Europe n'est qu'un théâtre des opérations. Il est essentiel parce que les Anglais y sont présents et que les Anglais tiennent la dragée haute aux Américains pour que l'Europe soit prioritairement défendue, prioritairement délivrée. Et la France n'est qu'un petit damier, sur le damier n'est qu'un petit pion, et c'est cette dimension réduite aussi que nous assumons dans cet ouvrage. Maintenant, je vais laisser la parole à ces deux directeurs qui vont vous le présenter plus amplement.
Alors, merci Eric pour cette présentation presque exhaustive. J'ajouterais qu'on peut exposer la manière dont on a travaillé. Donc ça, c'est, tu as dit comment on a conçu l'ouvrage et comment on a travaillé réellement. Donc on est allé chercher des spécialistes qui n'étaient pas au départ forcément spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, mais qui avaient travaillé sur un segment. Et chacun a été obligé de sortir de sa spécialité pour pouvoir faire une synthèse à partir de ses propres travaux. Mais vous savez que nous, on travaille sur des micro-objets. Et donc chacun a fait l'effort d'agrandir son angle d'approche, sa focale. Donc ça a été un exercice que tout le monde a accepté. Tous les auteurs l'ont accepté.
On m'a demandé d'être modérateur, je serais perturbateur. Je fais une incise, c'est-à-dire que ce que Alia vous dit d'une manière très élégante, c'est que souvent ce sont des historiens qui sont au début de carrière. Et une des grandes caractéristiques de cet ouvrage, c'est que ce sont de très jeunes historiens. La moyenne d'âge est plutôt quarantenaire, plutôt que des professeurs installé qui vous aurait dit que c'était très difficile à faire et qu'il fallait y renoncer.
Oui, j'insiste sur le fait que c'est plus mélangé qu'Éric Vigne le dit. Il y a des jeunes, il y a des vieux. Mais ils ont tous travaillé avec une sorte de défi à relever. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est que personne n'était, par exemple, spécialiste de toute l'Amérique latine en guerre. C'était un spécialiste de l'Amérique latine, donc à l'époque contemporaine. Et simplement, il s'est penché sur la guerre. Et d'ailleurs, souvent, les auteurs ont râlé en disant qu'il n'y avait pas de synthèse sur l'Amérique latine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'était un énorme travail que de la faire, parce qu'il fallait à la fois regarder des sources à nouveau et lire des choses qui étaient très éclatées. Donc voilà, chacun a fait l'effort de sortir de ses gonds, d'une certaine manière, mais ce que j'ai trouvé très intéressant c'était un long travail, hein, c'était 5 ans, avec divers bras de fer et tensions, et là on vous en parlera pas, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été un vrai dialogue entre sous-disciplines. C'est-à-dire, c'était pas seulement un dialogue entre historiens, politistes et philosophes, c'était aussi, à l'intérieur des spécialités historiques, quelque chose qui a permis de faire travailler et de travailler en correspondance des historiens des relations internationales, qui n'étaient pas forcément focalisés sur la guerre, et des historiens, par exemple, du nazisme ou d'histoire économique. Alors, un point sur l'histoire économique, il est très important qu'il y ait eu un chapitre, il y en a plusieurs en fait, il y en a deux dans l'ouvrage, parce qu'on a toujours tendance à couper l'histoire économique et sociale de notre spécialité. Et prendre un très grand angle de vue pour traiter de cette guerre monde, c'était évidemment ne pas oublier que les organisations internationales qui avaient existé dans l'entre-deux-guerres et qui avaient même été créées à la sortie de la Première Guerre mondiale n'ont pas tout simplement disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles ont survécu d'une manière ou d'une autre. Elles se sont parfois éteintes de leur belle mort. Hein. La SDN, très officiellement, est dissoute à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et pas en 1939, comme on croit. Et elles ont cherché des refuges. Par exemple, le BIT, le Bureau international du travail, s'est réfugié à Montréal. D'autres officines qui étaient comme ça, vu de très très loin par les États-Unis dans l'entre-deux-guerres, eh bien, se sont réfugiés aux États-Unis, sur les campus, hein, à Princeton, etc. Donc il y a eu quand même, à travers cette espèce de survivance de ce qui restait des organisations internationales du système de la SDN, une possibilité de réfléchir à l'ONU, et ce qui va sortir, évidemment, c'est souvent des programmes qui ont été réfléchis pendant la guerre. Et donc de cette guerre sort pas seulement des millions de morts, mais tout un système et toute une réflexion sur le monde tel qu'il doit être. Et ça aussi, c'est très éclaté géographiquement, hein, puisque les premières organisations économiques et sociales vont s'installer plutôt en Suisse, hein, dans l'entre-deux-guerres. Pendant la guerre, elles ont évidemment migré, et ou vers le continent américain, ce qui fait sens, hein, puisque ensuite c'est un système très largement patronné par les Américains. Donc ça, c'était juste un exemple. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était de pouvoir chacun sortir de son domaine et travailler avec d'autres. C'est Valérie Pratt qui avait fait sa thèse de philosophie sur Nuremberg, qui a fait le chapitre sur Nuremberg, et donc cette nouvelle ordre juridique mondial. Et je pensais que avoir un philosophe pour travailler sur des sujets qui étaient normalement réservés aux historiens, c'était très intéressant. Et d'autre part, c'est aussi un autre philosophe ou un politiste qui ouvre le volume, c'est Enzo Traverso, hein, qui est en ce moment à Cornell, et qui ouvre cet énorme travail sur des réflexions sur la modernité. Parce qu'évidemment, c'est une guerre qui a mis en jeu ce qu'on croyait savoir de la modernité, ou ce qu'on pouvait en tous les cas en penser. Donc c'est un projet beaucoup plus vaste qu'un sujet qui serait seulement de faire le récit chronologique et militaro-politique de la Seconde Guerre mondiale, parce que ça existe dans l'historiographie. Mais il n'existait pas, à ma connaissance, même dans l'historiographie anglo-saxonne, des synthèses sur des sujets. Alors certains, on les a inventés. Par exemple, on a inventé un chapitre sur la nuit. À quoi servait la nuit? Elle fait référence à quoi pendant ces années de guerre? C'est une métaphore qui est absolument dans tous les journaux, dans tous les textes de guerre, toutes les mémoires d'après-guerre. C'est vraiment une métaphore qui sature le discours sur la guerre. Et donc on a voulu, avec Johan Chapoutot, savoir ce que c'était que cette nuit, comment traiter, voilà, cette espèce d'élément. Voilà, fallait en faire un objet d'histoire. De même que la musique n'était pas spécialement un objet d'histoire, quand on pense à la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas beaucoup de références à la musique ou d'études sur la musique. Donc voilà, on a voulu ouvrir d'un point de vue chronologique, spatial évidemment, mais aussi thématique, pour ne pas rester dans ce qui était déjà vu. Et pour terminer, ensuite je passe la parole à Robert, on n'a pas voulu traiter de l'événement comme d'un fait brut. On a voulu traverser les événements avec l'interprétation des historiens, évidemment, mais aussi avec la manière dont ils étaient entrés en écho avec les vies quotidiennes et avec la vision des contemporains. Donc voilà, c'était les événements, on les a traités le plus possible hein, dans ces trois dimensions. À toi, Robert.
Oui, bon, je suis Robert Franck et j'ai envie de raconter la genèse de cette histoire. Je ne sais pas si Eric va me l'autoriser, mais tant pis, je vais le faire. Alia et moi sommes venus voir Eric et Martine Allaire, en fait, en leur proposant une collection. C'est-à-dire une collection Seconde Guerre mondiale, mais évidemment avec cette idée hein, de faire une histoire globale d'une guerre qui est globale, une histoire mondiale de cette guerre qui est mondiale. Et je ne sais plus au bout de combien de temps, Eric nous a répondu, nous avons une meilleure idée. Non pas une collection. C'est vrai que c'est tranquille une collection. C'est, voilà, je sais pas, un livre sur les Polonais pour la guerre, un livre sur l'Amérique latine pour la guerre, etc. Non, on a une meilleure idée. Un livre, un gros livre, une synthèse, et qui sera sortira d'un bloc et pas échelonné en plusieurs livres. Enthousiasme de notre côté, à la fois enthousiasme et inquiétude, je dois l'avouer, parce qu'effectivement, ça voulait dire donc mobiliser les auteurs, non pas pour que ces ouvrages sortent comme ça au fil des années, mais tout d'un bloc. D'où effectivement la gestion d'une cinquantaine d'auteurs. En gros, on a pris 2 ans de retard. Voilà, effectivement. Voilà. Mais tout ça pour dire que Gallimard a pris des risques. Gallimard a pris des risques parce que c'est vrai qu'une enfin, je sais pas, mais une collection, ça paraît moins risqué. Si elle marche, on la continue. Si elle ne marche pas, on l'arrête. Là, une fois commencé, il fallait aller jusqu'au bout. Alors, comme ça a été dit, effectivement, on voulait une histoire mondiale de cette guerre mondiale, d'où les bandes chronologiques moins eurocentrées. Et c'est vrai que ça manquait en France, parce que si on fait l'historiographie française de la Seconde Guerre mondiale, on a quoi? Pendant les années 50, pas grand-chose, des livres ici ou là. Et disons, à la fin des années 60, on a la synthèse d'Henri Michel, hein, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, une très bonne synthèse d'ailleurs. Hein. Mais c'est un peu l'histoire d'avant le tournant culturel, d'avant beaucoup de tournants, c'est-à-dire une histoire essentiellement militaire, politique, histoire culturelle pas grand-chose, histoire économique un peu pas grand-chose, etc. Et lorsque l'histoire économique, culturelle, etc. devient importante, à part les années 70, on a beaucoup de choses sur la Seconde Guerre mondiale en France. Mais en fait, sur la France. C'est Paxton, c'est Vichy, c'était nécessaire d'ailleurs. Hein. C'était de faire en sorte que les Français puissent regarder leur histoire en face, hein, à savoir ces années noires, hein, que effectivement tous les Français n'étaient pas résistants, quoi qu'en dise le général de Gaulle à l'époque, il aurait voulu ça, etc. Voilà. Donc c'était nécessaire. Mais du coup, on a fait pendant 20 ans, 30 ans de la bonne histoire culturelle, de la bonne histoire des représentations, mais franco-française, hein, pour voir ce que la réalité de Vichy, la réalité de la complicité de Vichy dans la Shoah, des choses tout à fait nécessaires. On s'est dit, bon, voilà, maintenant que les Français savent, maintenant que les Français, regardent leur histoire en face, bon, sortons du village français quand même, parce que tout ça, c'est bien gentil, c'est important pour nous, Français, hein, mais ce n'est que le village français dans un village global qui était entièrement en guerre. Hein, donc, déprovincialisons-nous, hein, et faisons en sorte qu'en France, on ait cette histoire mondiale de la guerre, mais non pas à la Henri Michel, mais effectivement avec tous les outils nouveaux de l'histoire culturelle, etc. C'était ça, effectivement, notre objectif. Alors, peut-être la démarche, le plan, l'idée, c'était, effectivement, la première partie, c'est le parti pris de la guerre, donc là, c'est une partie assez chronologique, alors, qui a l'air relativement classique, qui essaye de montrer bon, l'avant-guerre, comment la guerre commence, etc., les différents chapitres, avec pas mal de percées historiographiques, j'ai pas le temps de tous les dire. On a insisté sur les différents tournants, on parle toujours dans les manuels scolaires, à juste titre, d'ailleurs, du tournant de 42-43, bien sûr, c'est là que tout bascule, mais on a voulu insister sur d'autres tournants moins connus, sur le tournant de 41, sur le tournant de 43 aussi, après le grand tournant, voilà. Et puis, je dirais...
Je vais me permettre d'interrompre, on a insisté quand il y avait des tournants, on l'aborde de deux manières, c'est-à-dire le tournant tel qu'aujourd'hui ça nous apparaît être un tournant, mais en nous mettant toujours dans la tête des contemporains, c'est-à-dire des contemporains qui ont cru à l'importance tellurique d'événements qu'on a quasiment oubliés aujourd'hui et qui sont passés tout à fait à côté d'autres qui, rétrospectivement, nous apparaissent être les vrais tournants.
Absolument, et ça, c'est même le parti pris pour tous les chapitres, c'est-à-dire faire en sorte, tu parlais tout à l'heure du point de vue de Fabrice, d'Ango à Waterloo, donc la vision locale, ou la vision globale, la vision de Sirius, mais dans les deux cas, se mettre dans la peau des gens de l'époque qui ne connaissent pas la suite de l'histoire. C'est évident qu'en mai-juin 40, les Français n'avaient pas l'impression que l'Allemagne allait perdre la guerre. Les Soviétiques en déroute pendant l'été 41 n'avaient pas non plus l'impression que les Allemands allaient perdre la guerre. Donc qu'est-ce qu'ils pensaient? Comment ils voyaient les choses? Comment ils voyaient le monde? Et c'est pour cette raison que dans cet essai global d'histoire d'une guerre globale, on a voulu insister sur l'espace et le temps. Comment les gens voyaient le temps, d'où le tournant de 41, parce que s'il y a quelqu'un qui maîtrise bien le temps, c'est Hitler. Mais jusqu'en décembre 41 seulement. Après, il perd les pédales, les Japonais attaquent les États-Unis sans prévenir, alors même que l'URSS n'est pas encore vaincu, et là, tout son plan dérape complètement. Donc quand on se met dans la peau de Hitler, on a ce paradoxe, Hitler, le principal responsable de la guerre mondiale, c'est l'homme qui ne voulait pas de guerre mondiale. Parce qu'il savait que si la guerre était mondiale, il la perdait. Regardez la carte. Vous regardez la carte, vous voyez toute la coalition contre l'Allemagne, l'Italie et le Japon, ça ne fait pas le poids. Donc il voulait une suite de guerres successives qu'il gagnerait un peu comme Horace contre les Curias. Et puis là, les Japonais le mettent dedans parce que les États-Unis entrent en guerre plus tôt que prévu. Voilà. Donc on se met dans la peau des gens, y compris de Hitler, mais on se met aussi dans la peau du soldat, dans le bocage normand, etc., pour pouvoir, etc., etc. Alors, ensuite, les autres parties sur faire la guerre, vivre la guerre, hériter de la guerre, là, on a davantage de chapitres thématiques, de chapitres qui mettent tous les apports de l'histoire culturelle, donc aussi bien sur les musiques, le cinéma, les capitales culturelles, etc. Et là, je crois qu'on... Ce qui fait que ce livre, on peut le lire de la page 1 jusqu'à la page 2500, si on veut. Bon, non, peut-être pas, parce qu'il y a quand même des index à la fin. Mais on peut rentrer dans le livre comme on veut, quand on veut, je veux dire, il suffit en gros de savoir qu'Hitler est pour quelque chose dans le démarrage de la guerre, qu'il gagne pas mal de batailles, mais que finalement il va perdre la guerre, que c'est les Alliés qui gagnent. Une fois que vous savez ça, ça suffit pour entrer n'importe où dans le livre, sans être obligé pour comprendre de lire de A à Z. Voilà.
D'où l'importance du titre que nous avons donné à l'ouvrage, c'est pas une affaîtrie. Quand on parle de guerre monde, c'est à la fois l'idée de la guerre mondiale que nous avons tous. Mais c'est la guerre comme un monde en soi, c'est-à-dire que dans les parties, on fait la première partie est une partie qui montre le déroulé militaire, mais elle est aussi assez complémentaire par rapport à nombre d'ouvrages français, c'est-à-dire une insistance sur la marine, sur le jeu sur les apports fantasmatiques ou réels des services d'espionnage ou de contre-espionnage, du décryptage des codes, etc., etc. Et ensuite, on rentre dans la guerre quand elle devient un monde en soi avec ses propres logiques. Et c'est la deuxième partie qui traite de toutes les inventions réelles de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous parlais des violences faites aux civils. C'est la marche en avant du massacre dans les fosses communes jusqu'aux chambres à gaz pour l'éradication des Juifs et des Tziganes. C'est montrer qu'arrive un moment où il y a un enchaînement des événements qui impose une logique qui conduit, y compris un chapitre de Robert Frank sur les mobilisations de la science. Aujourd'hui, il y a des retombées civiles, bien évidemment, de découvertes pharmaceutiques qui ont été imposées par la préservation la préservation de la santé des troupes quand elles étaient en Asie ou ailleurs. Et c'est aussi un monde en soi parce qu'on prend des exemples qui sont à la fois classiques, mais qui sont fondamentaux pour montrer comment, quand on est en guerre, on est dans un monde autre. qui n'est pas l'amoindrissement du monde d'avant, c'est un monde tout à fait autre avec ses logiques de mobilisation des femmes dans des sociétés qui ne les mobilisaient pas industriellement par exemple. C'est aussi le fait que dans un camp de concentration, plusieurs témoins l'ont raconté, des laïcs ont voulu avoir un rite quand ils sentaient la mort venir et ont demandé à ce qu'on leur raconte, à ce qu'on leur dise un poème de Mallarmé, un poème de Rimbaud, un poème de Ronsard, et quand on les apprenait à l'école, on n'avait pas idée que ça pouvait devenir une prière laïque pour un détenu dans un camp. Et c'est toutes ces transformations-là qui justifient ce thème de guerre monde, c'est-à-dire montrer que c'est une décennie qui a sa propre logique, sa propre identité, ses propres spécificités qui ont des retombées aujourd'hui encore dans notre vie quotidienne, dans notre vie du moins quotidienne, dans notre vie politique ou internationale, mais que c'est un monde en soi qui impose sa logique. On parlait de la nuit, parce qu'un couvre-feu est quelque chose qui ne vous fait pas ralentir dans votre monde d'hier. Un couvre-feu vous fait rentrer de plein pied dans un autre monde, un monde de la nuit, où la nuit est une période de très, très intense activité, par les largages d'armes, par les rencontres des réseaux de résistance, etc. C'est un autre monde, et la littérature témoigne aussi de la difficulté qu'il y a eu ensuite à se déprendre de ce monde. Si on prend le cas français, c'est toute l'illusion lyrique de ceux qui ont cru que la presse de la résistance allait tenir. Alors très rapidement, la normalisation de la société s'est traduite par l'affaiblissement puis la disparition de la presse de la résistance. Donc quand on appelle ça guerre monde, c'est pas un clin d'œil vulgaire à Braudel. C'est vraiment parce qu'on veut montrer, en rassemblant toutes ces données des historiens et leurs recherches, qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est une guerre qui, devenant mondiale, vous impose sa propre logique, y compris une logique non prévue aux belligérants. Et c'est ça qu'on entend par guerre monde.
Et je voudrais ajouter, par rapport à la Première Guerre mondiale, on a beaucoup abusé du terme « guerre totale » pour la Première Guerre mondiale. Or, il se trouve que cette Seconde Guerre mondiale est la seule guerre totale. Si on n'omet pas de dire qu'une guerre totale, ce n'est pas uniquement la mobilisation de toutes les sociétés, de tous les moyens économiques, industriels, voilà, c'est pas seulement ça. C'est aussi, c'est ça, et une guerre raciale. Et ça, personne ne veut le dire. Enfin, les historiens veulent absolument tirer cette histoire de guerre totale à la Première Guerre mondiale, et pas du tout. C'est une guerre raciale. Et c'est dans cette dimension que tous les civils de tous les continents en guerre sont susceptibles d'être atteints, hein, puisqu'il y a ces doubles éléments dans la définition de la guerre totale. Donc nous, on n'a pas voulu abuser de cette expression, parce qu'aujourd'hui, elle est tellement galvaudée que plus personne ne veut savoir ce que ça veut dire. Mais si on relit les écrits de Ludendorff dans les années 30, il dit exactement ce que c'est que la guerre totale. Donc voilà. Mais par contre, on a voulu montrer la totalité de cette guerre et sa globalité. Et ce n'est pas simplement des lubies d'historiens qui ont envie de mettre des noms qui nous choquent sur des phénomènes. On a voulu, nous, exposer ces phénomènes au plus près possible des réalités telles que les contemporains les avaient vécues, pensées, imaginées. Et donc, dans la manière dont on a traité le récit historique, on a essayé le plus possible d'intégrer les faits et leur représentation, ou en tous les cas, leur réception. Parce que toute guerre, c'est vrai, une guerre, c'est la conquête de l'espace, on commence par ça, mais en réalité, c'était une guerre où il fallait aussi faire la conquête du temps, hein, puisque le Troisième Reich avait quand même un projet pour 1000 ans. C'était quelque chose qui s'installait, un empire qui s'installait sur un continent de manière quand même extrêmement longue, hein, ça fait beaucoup de générations, 1000 ans. Et donc, ce projet nazi, il est lui-même mondial. Donc il n'y avait pas d'autre possibilité qu'une réponse mondiale, puisque Hitler avait tout à fait fantasmé que le Troisième Reich ne survivrait que par et pour la guerre. Et donc il restait donc des conquêtes à faire pour les générations d'après. Alors il y avait le continent américain, il y avait des vagues vues sur l'Afrique qui de toute façon auraient été comme ça, une sorte d'empire colonial sous la botte de toute l'Europe nazie. Donc voilà, ce sont des projets qui dépassent très largement une simple guerre de conquête. C'est pour un temps illimité. Et donc la réponse des sociétés, y compris des combattants clandestins, c'est évidemment quel avenir, on se bat pour quel avenir, quel futur on va construire. Et donc c'est pour ça que la guerre est un monde en soi. C'est que chacun est obligé, d'une certaine manière, de valider ses buts de guerre. Et ces buts de guerre sont civilisationnels. Et pour revenir à la Première Guerre mondiale, il a été aussi dit pendant la Première Guerre mondiale que c'était une guerre de civilisation. Sauf que la Seconde est réellement une guerre de civilisation. Et personne ne s'y trompe, hein, dans tous les discours de guerre, on dit pourquoi on se bat. Eh bien, pour maîtriser notre avenir et pour avoir le droit de vivre comme on l'entend, comme chacun l'entend.
Il y a deux contributions, je rebondis sur ce que vient de dire Alia, il y a deux contributions qui montrent combien cette guerre monde est une guerre qui contamine tous les esprits. On a une représentation très virginale, je dirais aujourd'hui encore, de ce qu'étaient les États neutres. Or, la contribution que nous publie, que les deux auteurs ici publient sur la neutralité, montre que la neutralité était tout sauf neutre. Elle tenait éminemment compte d'une géopolitique du commerce, d'une géopolitique des échanges. Et pour ne rien dire, d'un autre chapitre tout à fait neuf sur les églises, parce qu'effectivement, l'Europe se débat autour de la question de Pie XII, du moins l'Église catholique se débat autour de la question de Pie XII. Mais lorsque aujourd'hui, dans les rayons de bonne librairie, on vous propose de vous soigner par le bouddhisme zen, religion strictement de refus de la violence, il faut savoir que le bouddhisme zen a été dans de nombreuses tendances tout à fait mobilisé et de bon cœur a servi les intérêts du régime militariste japonais. Donc là encore, une guerre monde, c'est aussi la saisir de la guerre dans ses côtés les plus insidieux. Et ça, on voit que dans ce monde, il n'y avait pas des gens qui étaient à la marge, qui se tenaient en témoin aux marges et aux frontières de cette guerre, et que même ceux qui se tenaient là étaient impliqués dans cette guerre.
Oui, on a voulu insister effectivement sur l'aspect temps et l'aspect civilisation. L'espace également. Mais je crois que tout ce qui était sur la géopolitique, on l'a répété, mais après tout, des choses étaient dites avant, c'est pas là-dessus, je crois qu'on innove. Puis sur l'aspect chronopolitique, hein, non pas la prise en compte politique de l'espace, c'est la géopolitique, mais la prise en compte politique du temps. Je disais tout à l'heure, Hitler maîtrisait politiquement le temps jusqu'à décembre 41, c'est-à-dire le moment où le Japon attaque les États-Unis, du coup font entrer les États-Unis dans la guerre, et au moment où l'armée allemande bute devant Moscou et n'arrive pas à aller plus loin. Voilà. Mais après, qui maîtrise le temps? On insiste là-dessus, et il y a vraiment des débats entre Roosevelt, Churchill et Staline. Chacun voit le temps différemment. Staline, il est pressé. Il aimerait que le temps s'accélère, nous battons, nous perdons beaucoup de vie. Vite, faites un débarquement, faites un second front. Churchill aimerait aussi. Non, Roosevelt, non. Non, Roosevelt a une manière américaine de faire la guerre. Il hérite ça de Grant, des nordistes contre les sudistes. Une vie, c'est important. On aime bien qu'à la fin de chaque bataille, de chaque soirée, on est comme bulletin de l'officier. OK, OK, zéro kill. Les Américains font une guerre lointaine, ils ne se battent pas pour la patrie, ils ne sont pas envahis par les Mexicains ni par les Canadiens. Donc ils se battent pour la démocratie, c'est une idée un peu abstraite, donc le moins de morts possible. Donc pour Roosevelt, c'est armer, armer, réarmer, faire marcher les usines, ça prendra le temps qu'il faut. Mais voilà. Et alors, bon, il veut bien faire un débarquement en Afrique du Nord pour faire plaisir à Churchill, puis en Italie, mais enfin pour lui, le vrai jour, c'est le D-Day, 44, vous vous rendez compte, le nombre d'années. Pendant ce temps-là, les résistants, eux, ils réclament, ils sont au sol, ils réclament des armes, ils réclament un débarquement. Non, l'Amérique prend son temps. Vous remarquerez d'ailleurs que la seule fois où l'Amérique n'a pas pris son temps, c'était au Vietnam, elle a perdu. Et en Irak, elle n'a pas forcément gagné. Mais toutes les autres guerres, elle a pris son temps. Et elle a gagné les guerres comme ça, avec le moins de morts possible. C'est la façon américaine de faire la guerre. Et donc, elle a imposé son temps. Le résultat, quand même, c'est qu'en février 45, Staline, pendant ce temps-là, lui, il est obligé d'avancer. Il est libéré d'abord son pays, puis envahir la Pologne. Il arrive à Berlin. Au moment de Yalta, les troupes soviétiques sont quasiment à Berlin. Les Occidentaux n'ont pas traversé le Rhin. Donc vous imaginez bien qu'à Yalta, Staline est plutôt en position de force. Parce qu'effectivement, après, bien sûr, les Américains se rattrapent, après la mort de Roosevelt, puisqu'ils deviennent la première puissance militaire du monde grâce aux guerres atomiques. Côté civilisation, donc vous voyez la question de la maîtrise du temps est importante. Celui qui est maître du temps est maître de la guerre et de l'après-guerre. Sur la civilisation, guerre totale, oui, guerre mondiale, et peut-être guerre finale. Finale, non pas au sens de la guerre des nerfs, mais l'idée, beaucoup plus qu'en 14-18, que c'est une guerre pour la civilisation. Pas seulement parce que nous, Français, en 14-18, nous pensons que notre civilisation est supérieure à celle des Boches, et les Boches, enfin les Allemands, donc, de leur côté, pensent que leur civilisation est supérieure à celle de la barbarie russe. Chacun avait son barbare dans l'autre camp. En 39-45, c'est différent. C'est vraiment, si on perd la guerre, c'est pas seulement notre pays qui est perdu, c'est notre civilisation. Hitler veut imposer une civilisation. Lui aussi, il fait une guerre pour la civilisation. C'est-à-dire une civilisation fantasmée, aryenne, indo-européenne, race supérieure, gréco-romaine, contre la guerre, contre la civilisation judéo-chrétienne. La civilisation judéo-chrétienne, vous vous rendez compte, c'est juifs, Moïse, puis Jésus-Christ, puis Karl Marx, trois youpins, qui veulent défendre les faibles. L'un par la loi, l'autre par la charité, l'autre par le communisme. Non, nous sommes pour une civilisation gréco-romaine, alors complètement fantasmée, évidemment, hein, complètement réimaginée par les nazis. C'est-à-dire c'est le fort qui doit gagner. Donc on a vraiment un choc, là, si j'ose dire, de deux conceptions différentes de la civilisation occidentale, parce qu'aussi bien gréco-romain que judéo-chrétien, c'est amalgame qui fait la civilisation occidentale. Donc à l'intérieur de la civilisation occidentale, on a véritablement cette tension et effectivement cette conscience que... La perte de cette guerre, ce sera un résultat final, une fois pour toutes, pourquoi pas le Reich de Milan dont parlait Hitler, ou au contraire, si c'est la défaite de Hitler, eh bien une vision plus démocratique et plus sage de la civilisation.
Bon, voilà, merci alors.
Merci d'être venu.
Merci.